Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons à Amsterdam pour cette dernière émission enregistrée à l'occasion de la 22e conférence internationale sur le sida qui réunit cette semaine les acteurs de la lutte contre la maladie. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous nous arrêtons sur une région du globe à contre-courant de la tendance internationale, aussi bien en matière de contamination qu'en termes de mortalité. Cette zone de la planète, c'est l'Europe orientale et l'Asie centrale, seule région où le nombre de nouvelles infections est en augmentation selon l'Organisation mondiale de la santé. Une hausse au rythme de 10% par an, 60% de nouveaux cas sur la période 2010-2017 et 30% de décès supplémentaires, alors que sur la même période, dans le reste du monde, la mortalité a chuté de 40%. Au-delà du constat, il y a les explications. L'insuffisance des moyens investis dans les politiques de santé, les carences en matière de réduction des risques, tabous, stigmatisation et déficience des systèmes de soins entravent les efforts de prévention et privent d'accès au traitement les populations les plus vulnérables. Et face à cette situation préoccupante, se mobilisent des acteurs communautaires, des associations, des institutions qui refusent de baisser les bras, même si en matière de riposte à l'épidémie, ces bonnes volontés ne peuvent à elles seules compenser l'absence de courage politique et d'investissement d'envergure. L'épidémie de VIH-Sida en Europe orientale et en Asie centrale, une émission enregistrée à l'occasion de cette 22e conférence de l'IAS à Amsterdam, réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, contribution de la France au Fonds mondial pour renforcer l'impact des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. État des lieux, explications, initiatives engagées face à cette flambée de sida en Europe orientale. On en parle avec nos invités. Avec nous, professeur Michel Kazatchkine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Anke Van Damme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice exécutive de l'AFIU International, fondation Est-Ouest de lutte contre le sida basée ici à Amsterdam. Et également avec nous autour de cette table, Marie Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet à Expertise France.
Priorité santé sur RFI.
Alors au cours de cette émission, on aura bien sûr l'occasion de nous arrêter sur la situation dans certains de ces pays, de parler de ce qui se passe en Russie, au Kazakhstan, en Roumanie, aussi bien en Ukraine ou en Géorgie. Mais d'abord, professeur Kazatchkine, on vient de souligner de façon très générale, rapidement, cette situation qui prévaut aujourd'hui en Europe orientale, en Asie centrale, sans tomber dans le sensationnalisme. Quand on utilise le terme de catastrophe, est-ce que c'est exagéré ?
Non, je ne crois pas que ce soit exagéré. Je crois que cette région, et singulièrement la Fédération de Russie, qui en nombre représente 80% des nouvelles infections dans la région, et 80% de la mortalité liée au sida dans la région, cette région fait face à une crise de santé publique. D'autant que le sida n'est pas tout seul. Le sida est très souvent accompagné de la tuberculose, qui est la première cause de mortalité des patients infectés par le VIH. Et dans la région, la tuberculose est une tuberculose très sévère, c'est très, pour beaucoup, une tuberculose multirésistante. La région Europe de l'Est, tous les chiffres que vous avez donnés sur le sida sont absolument corrects et votre analyse est remarquable. Je ne reviens pas sur ces chiffres. Sur la tuberculose, j'aimerais dire que la région représente 4% du poids global de la tuberculose dans le monde, mais 25% du poids de la tuberculose multirésistante.
Alors pour nos auditeurs, tout le monde n'est pas forcément habitué à ces termes, multirésistante, ça veut dire que les médicaments classique ne fonctionne plus.
Oui, vous savez que, et nos auditeurs savent probablement que la tuberculose peut être guérie à condition de prendre pendant 6 mois un traitement qui est curatif. La tuberculose multirésistante, c'est une forme de tuberculose chez les gens qui ont dû interrompre leur traitement ou qui ont pris un mauvais traitement et qui deviennent résistants aux médicaments habituels de la tuberculose. Et la tuberculose multirésistante, elle, est une maladie qui est mortelle dans près de 40% des cas. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer, qui demande un traitement très long de 2 ans, extrêmement coûteux. Et la région, dans l'ensemble, comme beaucoup de régions dans le monde, sont très en retard dans ce domaine. Mais revenons au sida, c'est une crise sanitaire majeure que l'on voit dans la région.
Aujourd'hui, ce que vit justement cette région, professeur Michel Kazatchkine, est-ce qu'on peut comparer cette situation à ce qui se passait il y a quelques années dans d'autres régions du monde ?
Oui, quelque part, et c'est ce qui nous navre finalement, nous les médecins, les scientifiques, les activistes de la lutte contre le sida, c'est que cette épidémie qui s'est développée beaucoup plus tardivement que les autres. N'oublions pas que l'épidémie en Afrique a commencé probablement dans les années 50-60, l'épidémie en Europe et aux États-Unis s'est développée dans les années 80, l'épidémie en Europe orientale et en Asie centrale s'est développée à partir des années 95-2005, quand, après la chute du mur de Berlin, l'espace économique et social en Russie et dans la région s'est effondré, quand les systèmes de santé ont pratiquement disparu et quand une épidémie massive d'usage de drogue est arrivée dans la région. Avec maintenant, rien qu'en Fédération de Russie, pratiquement 1 million de personnes vivant avec le VIH, et pour ce qui est des hommes de 30 à 39 ans, 3% ou même un peu plus de 3% d'entre eux vivant avec le VIH dans la population générale. Et si on s'adresse alors à des groupes singuliers, je voudrais juste donner un chiffre. Dans la ville de Saint-Pétersbourg, parmi les personnes utilisant des drogues, la prévalence, ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire la proportion de gens qui sont séropositifs pour le VIH, c'est 60%. Parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, c'est 20%. Parmi les travailleuses du sexe, et je sais que ce mot n'est pas très admis dans le vocabulaire officiel français, mais je continue à l'utiliser, c'est 15%.
Il est admis dans notre émission. On va essayer de comprendre justement les différentes conditions. Il y a une dimension historique qu'on vient d'aborder, ce qui a contribué à cette flambée épidémique. Mais c'est important de le dire d'entrée de jeu. Il y a forcément, quand on parle lutte contre le sida, une dimension financière. En Kevandam, beaucoup d'États de la région sont privés d'assistance financière internationale. On peut dire, c'est peut-être choquant, parce qu'ils ne sont pas assez pauvres. C'est une réalité aujourd'hui.
Oui, ça c'est vrai. L'un des problèmes qui empêche une augmentation aussi importante des nouveaux cas de VIH est le retrait des donateurs internationaux d'Europe, de l'Est et d'Asie centrale. Une raison importante à cela est que de nombreux pays de cette région sont classés par la Banque mondiale en tant que pays à revenus intermédiaires. Cela signifie que ces pays ne recevront pas d'argent pour le développement et qu'ils devront supporter le coût de prévention, de traitement et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH eux-mêmes. Et c'est précisément dans les pays à revenus intermédiaires que les groupes tels que les usages de drogués, les travailleurs de sexe, les groupes de LGBT sont les plus exposés au VIH. Il y a des pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale qui criminalisent ces groupes avec la législation. Ces pays ne peuvent pas et ne financeront pas des activités pour ces groupes. De plus, ces communautés sont stigmatisées et discriminées, ce qui les empêche de consulter un médecin et de chercher un soutien.
On comprend bien, moins d'aide internationale, ça fait qu'il revient directement aux États de prendre en charge cette assistance. Et là, on voit que ces États ne veulent pas forcément mettre la main au portefeuille. Professeur Michel Kazatchkine, vous vouliez réagir sur ce point ?
Oui, je voulais juste réagir que le retrait de ces programmes met ces pays, comme vous venez de leur dire, devant leurs responsabilités. Or, ce sont des pays où ces sujets sont tabous et même illégaux et même, comme Anke l'a rappelé, criminalisés. Nous n'avons aucune donnée officielle sur le nombre d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou de travailleurs ou travailleuses du sexe et pas de données médicales sur ces personnes parce que...
Pour la Russie par exemple.
Pour la Russie par exemple, mais c'est vrai en Ouzbékistan, c'est encore plus vrai au Turkménistan où il y a 0,4 sida officiellement, n'est-ce pas ? Le seul pays du monde. Mais parce que, quelque part, l'aide internationale apportait une visibilité politique et pragmatique à ce sujet, en même temps qu'elle apportait une aide financière.
Alors, pour décrire ce que fait votre fondation LAFIU, hein, vous travaillez sur ces fameuses relations Est-Ouest, en que Van Damme, vous adaptez, vous soutenez des organisations qui engagent des programmes de lutte qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez nous parler justement de ces différents pays dans lesquels vous intervenez ?
Oui, nous travaillons en Géorgie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, en Russie et aussi Tadjikistan et Ukraine. Nous travaillons à améliorer l'accès aux soins pour les groupes vulnérables de la société. Et en effet, nous formons des organisations locales pour attendre ces groupes avec des informations, des tests et des moyens aussi de se protéger contre le VIH. Nous veillons à ce que ces organisations locales soient à la table des décideurs pour réfléchir et participer aux activités de prévention et de traitement du VIH.
Est-ce que l'épidémie, justement, quand vous citez ces différents pays, l'épidémie est surtout localisée dans les zones urbaines, Anke Van Damme ?
Oui, partout dans le monde, nous trouvons la plupart des personnes vivant avec le VIH dans les villes. Beaucoup de LGBT, des travailleurs de sexe et de toxicomanes migrent vers la ville parce que la ville leur donne l'anonymité. De plus, ils rencontrent beaucoup plus de gens partageant les mêmes idées et de sorte qu'ils peuvent aussi construire une vie sociale. C'est pourquoi l'ONU-SIDA a mis en place un programme Fast Track Cities.
Donc ciblé sur les villes.
Et la déclaration de Paris, émanant votre capitale, que de nombreuses villes ont signé déjà.
Ce sont des engagements de très grandes villes à s'impliquer particulièrement, mettre des moyens dans la lutte contre le sida.
Oui. EFIU, avec deux autres organisations, mène un programme pour les villes d'Europe en l'Est et d'Asie centrale. Kiev et Odessa ont signé la déclaration de Paris. Et vous voyez que cet engagement politique fonctionne.
Est-ce qu'on voit justement, professeur Michel Kazatchkin, certaines municipalités, certaines grandes villes, être plus ouvertes, avoir plus d'envie d'action que certains États? C'est une dynamique.
Oui, absolument. C'est une dynamique qu'on voit partout dans le monde.
On le voit aussi pour l'environnement, d'ailleurs.
On le voit pour l'environnement, mais restons dans un sujet voisin du sida et très proche, qui est celui des politiques de drogue. Rappelez-vous, aux États-Unis, ce sont des États qui, par référendum, ont amené à la légalisation de la marijuana contre les dispositions fédérales. Et ce qui était intéressant, c'est que l'État fédéral, à ce moment-là, s'est tu, alors qu'il est en contradiction avec les conventions internationales. Donc, ce que l'on voit sur différents sujets de société, c'est que, à l'échelon local, des mouvements citoyens ou des maires entreprenants peuvent fédérer des efforts et trouver aussi, dans des politiques de décentralisation, des moyens financiers pour intervenir.
Alors, on a cité hein, parmi ces pays dans lesquels vous intervenez, où vous faites la promotion de certains programmes avec LAFIU, l'Ukraine, la Géorgie, Marie Martin, justement, ces deux pays où l'initiative 5% finance aussi des projets. On va revenir plus dans le détail sur la nature de ces projets. D'abord, du côté des populations visées, on imagine que ce sont les mêmes que celles que l'on vient de citer tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Donc, on accompagne principalement actuellement les UDI, donc les usagers de drogue injectable. Mais on a un focus plus sur les populations aussi vulnérables. Donc, c'est-à-dire qu'on a un projet notamment en Ukraine qui s'est terminé et qui visait à développer des stratégies adaptées pour les femmes usagères de drogue, puisque on constatait que seulement elles représentaient très peu des personnes qui avaient accès au centre de réduction des risques. Travailler aussi avec les travailleurs sociaux et les soignants sur quelles sont leurs perceptions des usagers de drogue, travailler sur leurs propres stéréotypes pour permettre de développer des interventions en fait adaptées. Et grâce à ça, dans certains centres, on a vu augmenter la participation des femmes qui étaient dans certains centres à hauteur de 40% à la fin du projet.
Professeur Kazatchkin, on va reparler justement de cette attitude de la Russie tout à l'heure, parce que ça a une importance majeure en termes d'influence régionale. Mais on va d'abord s'arrêter sur quelque chose de très concret, c'est l'importance de disposer de données fiables pour engager des actions de terrain. terrain. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va se retrouver dans un instant. On va aborder maintenant la situation au Kazakhstan avec vous, docteur Sophie Grabar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, praticien hospitalier, co-investigatrice de la cohorte ANRS pour la base de données française hospitalière sur l'infection à VIH. Base de données, autrement dit, réunir des informations indispensables sur cette épidémie. C'est ce que vous avez fait dans ce pays, le Kazakhstan, à cheval entre l'Asie centrale et l'Europe orientale. En fait, il y avait des chiffres, mais ces chiffres n'étaient pas traités, c'est bien ça ?
En fait, on va mener un projet qui sera un des premiers projets français dans cette zone, où il va y avoir deux parties. Une première partie qui, à partir des données que les Kazakhs collectent, des données sur le territoire, on va réanalyser les données de façon à pouvoir voir quelle est ce qu'on appelle l'épidémie cachée, pouvoir évaluer quels sont les patients qui sont infectés par le VIH, ceux qui ne connaissent pas leur infection, ceux qui sont donc diagnostiqués et qui après sont traités, et de savoir un peu quels sont les délais de passage d'une étape à l'autre. Et l'autre partie du projet, c'est de pouvoir analyser les données de suivi des patients, et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'analyse, de vision au long cours de leurs données, de suivi de comment les patients, est-ce que les patients restent dans le soin, pourquoi ils restent dans le soin, ou pourquoi ils quittent le soin.
Ça veut dire que de la part de ces autorités du Kazakhstan, il y a une volonté quand même d'avoir les moyens d'attaquer, de lutter contre l'épidémie, alors que dans d'autres régions ce n'est pas forcément le cas. Ces autorités, elles trouvent qu'elles-mêmes ne disposent pas des outils méthodologique de ce savoir-faire qu'ont déjà développé certains chercheurs en Europe occidentale.
Oui, c'est ça qui nous a beaucoup marqué, nous, quand on y a été en novembre dernier. D'abord, c'est que la demande venait du terrain, et ça, je pense que c'est important, et c'est très différent de ce qu'on peut voir dans l'ancienne, parce qu'on a oublié de dire que quand même le Kazakhstan, c'est une ancienne république soviétique, et elle se conduit de façon très différente de la Russie. En Russie, il y a une espèce de déni, et Michel Kazachkine vous en parlera davantage, mais et du coup, c'est très difficile d'avoir accès aux autorités, et surtout d'avoir le soutien des autorités. Et tandis que là, ça vient des autorités ou de gens qui ont conseillé les autorités et qui ont réussi à leur faire comprendre qu'il était nécessaire de connaître son épidémie pour pouvoir agir. Donc ils ont, alors ça c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment envie d'être performants, d'être les bons élèves, d'obéir aux règles qui sont un peu édictées comme ça par l'ONU-SIDA, ce qui est pas du tout l'attitude que pourraient avoir les Russes. Donc ça, c'est vraiment une attitude assez différente. Et donc, ils ont accès au traitement. Les patients affectés par le VIH peuvent être traités par des traitements antirétroviraux qui sont délivrés gratuitement aux Kazakhs. Alors, pas aux migrants, mais c'est déjà une première étape. Ils ont fait venir beaucoup de tests de dépistage de façon à faire du dépistage dans les populations à risque. Et du coup, ils implémentent ça depuis une dizaine d'années et ils ont commencé à réagir. Et d'ailleurs, sur les quelques chiffres qu'ils ont, ça se voit.
Merci beaucoup, docteur Sophie Grabar. Je rappelle que vous êtes maître de conférence, praticien hospitalier. Vous travaillez donc sur cette cohorte ANRS pour la base de données française hospitalière sur l'infection à VIH. Merci beaucoup.
Merci.
RFI. Et nous nous retrouvons pour la suite de notre émission à Priorité Santé Amsterdam dans le cadre de la 22e conférence internationale sur le sida. Nous parlons de la flambée de l'épidémie de VIH-Sida en Europe orientale, en Asie centrale, tendance à contre-courant de la situation mondiale. Au-delà de l'état des lieux avec nos invités, nous voyons quelles initiatives de terrain tentent de changer la donne. On vous retrouve, Anke Van Damme, directrice exécutive de l'AFIU International, Fondation Est-Ouest de lutte contre le sida, Marie Martin, chargée de projet Expertise France, et vous, professeur Michel Kazachkine, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Professeur Kazachkine, on s'est arrêté sur cet exemple du Kazakhstan. C'est d'ailleurs un projet à l'origine duquel on vous retrouve. C'est très important, cette connaissance du tableau épidémiologique pour agir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne donnent pas les chiffres ne veulent pas voir, en quelque sorte, ce qui se passe chez eux ?
Je crois que c'est une tendance générale, disons, des politiques de lutte contre le sida dans le monde. On entend beaucoup parler de cela ici à cette conférence. pas seulement au sujet de l'Europe de l'Est, mais à l'échelle mondiale, il faut que les pays adaptent leur stratégie de lutte à la réalité de leur épidémie. Si vous basez votre stratégie sur, comme c'est souvent le cas dans les pays de l'Est actuellement, sur seulement, par exemple, la nature des déclarations des gens vous disant quels étaient leurs facteurs de risque quand ils apprennent leur infection. Le moment du diagnostic, dans ces pays, et même chez nous en France, il est quelque part 5 ans après l'infection qui est survenue. Donc les données que l'on recueille sont des données qui sont déjà vieilles de 5 ans, et puis ce sont des données biaisées, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas déclarer que vous êtes un usager de drogue ou un homme ayant des relations sexuelles avec un homme du fait des conséquences que cela peut avoir. Donc il s'agit maintenant de recueillir des données réelles, et le Kazakhstan est effectivement dans un effort remarquable là-dessus. Cela va demander le travail avec la société civile, car c'est elle, ce n'est pas le système public, c'est la société civile qui a accès à ces gens, et à travers des enquêtes qu'elle peut réaliser parmi les gens qu'elle atteint. Et puis l'autre chose dont parlait Sophie et Grabar, qui me paraît aussi très importante, c'est de savoir ce que... Il ne suffit pas de mettre un patient en traitement antirétroviral, et il ne suffit pas pour nous, dans les grandes institutions internationales et à l'ONU, de crier victoire parce qu'on a mis 22 millions de personnes dans le monde au traitement. Une fois au traitement, ces gens commencent un traitement pour leur vie entière. Donc il faut que se créent les conditions dans lesquelles ces gens puissent, comme nous le disons, adhérer au traitement, prendre ces médicaments pendant des années. Il faut voir ceux qui échappent au système, qui ne reviennent plus parce qu'ils ne tolèrent pas un médicament, parce qu'ils ne veulent plus continuer de prendre un traitement, parce qu'ils se sont déplacés dans leur travail ou pour des raisons familiales. Il faut comprendre la réalité de la cohorte, du groupe de patients que l'on suit. Et pour ça, il faut avoir des registres, des données statistiques. Tout cela n'existe pas dans la plupart des pays d'Europe de l'Est où les fiches sont encore des fiches papier qui s'échangent.
La question qu'on retrouve au niveau international et peut-être encore plus dans cette région, professeur Kazachkine, c'est l'insuffisance du dépistage et de la connaissance de ce statut sérologique primordial.
Oui, pratiquement 40 à 50% des personnes estimées être séropositives pour le VIH dans la région ne connaissent pas leur statut. Et bien sûr, il s'agit avant tout de personnes qui appartiennent à ces fameux groupes à haut risque dont on parle depuis le début de l'émission, les personnes utilisant des drogues ou qui ont utilisé des drogues dans les années 95-2000 qui ne les utilisent pas maintenant. Mais il suffit d'une fois avec un échange de seringues pour s'infecter. Ou des personnes qui ont été des travailleuses, des femmes qui ont été des travailleuses du sexe, qui sont maintenant dans un autre itinéraire de vie, ou bien sûr des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, dont beaucoup sont bisexuels et mariés et dans des familles. La Russie dit qu'elle a testé 30 millions de personnes dans la seule année 2017 pour le VIH. Mais évidemment, il s'agit de tests systématiques avant une intervention chirurgicale. Donc, une grand-mère qui vient pour, j'ai beaucoup d'affection pour les grand-mères, qui vient pour une opération de la hanche, ou de jeunes lycéens dans une petite ville rurale. Les campagnes de dépistage sont calquées sur les grandes campagnes de promotion de la vie saine.
Elles sont hors cible.
Et elles sont hors cible.
Alors justement, que Van Damme, pour un petit peu, une petite échelle, essayer de rectifier ce tir. Programme local de réduction des risques qu'a engagé votre association en Russie, avec en appuyant des organisations locales, avec notamment des tests de dépistage rapide, des distributions de seringues, des consultations, on l'a compris à l'instant, le suivi c'est indispensable. Tout ça c'est très concret, mais c'est pointu, c'est sur une petite échelle.
Ce n'est pas facile de travailler en Russie. L'usage de drogue et le travail du sexe sont illégaux, il y a de l'homophobie. Nous travaillons avec des groupes de personnes qui sont criminalisées et discriminées. Il existe une loi sur les agents étrangers, une loi qui fait qu'il est difficile pour les organisations de recevoir de l'argent d'étrangers pour leurs activités.
Alors ça, on en avait parlé, on en a parlé sur RFI, c'est qu'il y a eu en fait une loi qui était plutôt, on va dire, dans le cadre des droits de l'homme, de la protection de la Russie, etc. Mais en fait, qui s'applique à tout le monde, qu'il s'agisse donc des droits de l'homme, mais aussi des organisations pour la santé globale, pour la santé, pour l'assistance aux personnes vulnérables.
Il y a aussi beaucoup d'ignorance et de mythes à propos du VIH. Cependant, il existe des ONG très motivées et fortes qui continuent à faire le travail.
Professeur Michel Kazatchkin, justement pour concrètement comprendre comment c'est, on peut dire c'est quasiment des francs-tireurs, comment ils font pour travailler dans de telles conditions?
Alors, ils se mettent en danger, c'est clair. D'abord en danger financier, depuis le départ du Fonds mondial, beaucoup de ces organisations qui étaient financées par la communauté internationale ont fermé. Pour les organisations internationales ou les organisations non gouvernementales internationales comme AFIO, on trouve des moyens qui peuvent aller jusqu'au coffre de voiture pour amener de l'argent dans certaines régions et dans certains pays. Et certains de ces militants peuvent être arrêtés et emprisonnés. Moi, j'ai vu, néanmoins, il y a aussi quelque part une sorte de tolérance ou d'acceptation par les forces de l'ordre. J'étais à Ekaterinbourg, une ville du Caucase, à très forte prévalence du VIH, où j'étais dans un sauna. Et ce sauna donne aussi ou permet des services sexuels. Il suffit de s'adresser à la réception, si j'ose dire, et la réception appelle des femmes qui attendent pratiquement dans des voitures à quelques centaines de mètres de là et qui viennent dans le... Et cette organisation donnait des préservatifs, des lubrifiants, des préservatifs féminins, donner des conseils et s'assurer aussi du bien-être social de ces travailleuses du sexe dans le sauna. Quelque part, la police ferme les yeux, soit parce qu'elle est tolérante, soit parce qu'elle est corrompue.
Comment expliquer que Moscou, à ce point, ferme les yeux, ne facilite pas ce travail quand on parle tout simplement, professeur Kazatchkin, de santé publique?
C'est très difficile, je le reconnais, parce que je fais évidemment partie des gens qui considèrent que si les lois vont à l'encontre de la santé publique, il faut changer les lois. D'abord, il faut se rendre compte de l'énorme inertie politique et sociale qu'il y a dans ces pays. Il faut se rendre compte du poids des lobbies conservateurs, en particulier de l'Église orthodoxe russe. Il faut se rendre compte de ce que les hommes politiques qui détiennent le pouvoir ont avant tout une vision à très court terme. Ils n'ont pas une vision à long terme de leur société. Ils ont très peur de leur électorat. Et puis, ils n'ont pas les ressources financières pour actuellement, dans le contexte de crise économique, pour amener véritablement tous les programmes à l'échelle. Et donc, on voit dans le gouvernement de Russie, on voit une ministre de la Santé qui, j'en suis persuadé, comprend parfaitement la situation, mais qui ne peut pas prendre un certain nombre de mesures, à laquelle le ministre de l'Intérieur va s'opposer très, très fortement. Mais soyons clairs, en France, nous continuons à arrêter 150 000 personnes par an pour le simple port de cannabis. Donc on a aussi cette inertie et ce contrepoids à ce que la santé publique nous dit de faire. Mais bien sûr, en Russie, c'est à une très grosse échelle. Alors, les choses vont-elles changer ? Je pense qu'elles vont changer. Ça va mettre du temps. Les citoyens commencent à s'exprimer. Les ONG sont fortes. Il y a beaucoup de voix sur le net et les réseaux sociaux. Il y a même des journaux officiels comme Kommersant, qui est une sorte de Monde en Russie, qui est très respecté et qui écrit beaucoup sur le sida. Et en novembre dernier, le président Poutine est venu ouvrir une conférence internationale sur la tuberculose à Moscou, et c'est la première fois qu'il s'exprimait sur le sujet de la santé. Alors, cela veut-il dire quelque chose? Je ne sais pas.
Il sera peut-être attendu.
Il sera attendu à New York, aux Nations Unies.
Fin septembre, grande réunion sur la tuberculose.
Mais plus le temps passe, plus on perd de temps. et plus on assiste à des souffrances, des vies gâchées et des morts qu'on pourrait éviter.
Alors, situation très différente chez le voisin, l'Ukraine, même si, hein, bien sûr, notamment en raison de la guerre, il y a de grosses difficultés financières. Vous travaillez justement sur ce territoire de l'Ukraine, Marie Martin, avec Expertise France, sur plusieurs projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces projets ?
Alors, actuellement, en Ukraine, on a financé 3 projets. Donc, il y en a un qui s'est terminé, et celui que je mentionnais, pour favoriser l'accès aux activités de réduction des risques pour les femmes usagères de drogue. Et actuellement, on a 2 nouveaux projets qui ont démarré fin 2017. Un qui vise à faire des stratégies de prévention pour les adolescents usagers de drogue, qui sont mis en œuvre par AFU Ukraine et en partenariat avec l'Alliance Ukraine. Et on a un autre projet qui vise en fait à développer des stratégies communautaires pour faciliter l'accès aux soins aux personnes vivant avec le VIH. Et là, en fait, progressivement, ils vont ouvrir 5 cliniques de base communautaire. Et il est important de noter que ces projets-là sont vraiment ancrés dans la réforme du système de santé qui est en cours actuellement, puisqu'ils visent une décentralisation des soins grâce en fait à l'utilisation des médecins généralistes qui pourraient dépister, prendre en charge et les patients en fait vivant avec le VIH. Puisque actuellement la prise en charge est relativement centralisée en Ukraine. Les gens doivent se déplacer très loin. J'ai visité une clinique de prise en charge. On arrive à 8h, on fait la queue en fonction de l'heure dans laquelle on est arrivé. Quand on va rencontrer une personne de prise en charge sociale, il y a 4 assistants sociaux dans la même pièce. Enfin, c'est pas
aucune
vraiment
intimité.
Adapté. Non, aucune intimité. Donc, ça permet vraiment de développer des activités innovantes et adaptées aux besoins des communautés.
Alors qu'on va le voir justement, cette question de l'adaptation de l'offre à la réalité du terrain, c'est primordial. Également, même si une épidémie n'est pas très importante, avoir malgré tout des moyens à la hauteur, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet exemple en Roumanie. Situation en Roumanie que l'on évoque avec vous, Mea Ilixandru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur de projet au sein de l'ARAS, l'association roumaine contre le sida. Vous pouvez nous donner des indications sur l'étendue de l'épidémie de sida en Roumanie.
Dans 2017, il y a 15 000 personnes qui vivent avec le VIH ou le sida dans la Roumanie. Chaque année, nous dépistons vers 800 personnes. Il y a des groupes vulnérables qui sont les plus affectés par l'épidémie, mais aussi beaucoup de hétérosexuels qui s'infectent et sont dépistés chaque année.
Est-ce que ça va mieux sur le front du sida aujourd'hui en Roumanie par rapport à il y a 10 ans, ou est-ce que c'est quelque chose qui empire ? On voit dans les autres pays d'Europe orientale une augmentation du nombre de cas, une augmentation de la mortalité qui va à contre-courant de la tendance mondiale. Est-ce que c'est la même chose en Roumanie ?
Dans la Roumanie, dont il y a déjà 10 ans, je crois que la maladie s'est un peu
stabilisée.
Mais c'est aussi pourquoi nous n'avons pas de campagne de dépistage. C'est pourquoi le nombre c'est stable. Parce que si vous ne faites pas de campagne de dépistage, vous ne trouvez pas les personnes qui sont...
En fait, la photographie que vous avez aujourd'hui de votre pays n'est pas la vraie photo.
Non.
Comment décrire la perception de la maladie et des malades au sein de la population ? Est-ce qu'aujourd'hui, le sida, c'est encore une maladie stigmatisante qui exclut les personnes malades ?
Oui, dans la Roumanie, oui. Parce que nous avons une petite étude que le Conseil national contre la discrimination a fait et les personnes qui vivent avec VIH sont les plus discriminées. Et la deuxième sont les garçons ou l'homme qui sont gays.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de la proportion de personnes qui sont séropositives mais qui n'ont pas fait de test et qui ignorent leur statut sérologique ?
Non, ce n'est pas proposé.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est un test dans la Roumanie que c'est volontaire.
Toi... Et pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de la part de l'État roumain de ne pas trop en faire, de ne pas faire de bruit autour du sida ? Il y a une sorte de frilosité ?
C'est difficile à répondre à ces questions. C'est en question parce que le traitement est très cher dans la Roumanie. Il y a un budget pour ça et parce que le traitement c'est aussi gratuit. Il veut dire que si vous dépistez des personnes qui vivent avec le VIH, vous devez commencer le traitement. Ça veut dire un budget plus grand pour le ministère de Santé. Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour ça. Et c'est un peu aussi en négligence des autorités qui ne considèrent pas les VIH en une maladie
Un problème de santé publique. Et quelles sont les initiatives, quelles sont les actions que mène votre association justement dans le cadre de cette lutte contre le VIH en Roumanie?
Il y a déjà 18 années que nous faisons des programmes de distribution de seringues. Et nous faisons aussi des dépistages au VIH de hépatite B et C pour les usagers de drogue ou pour les femmes qui sont travailleurs sexuels ou pour les personnes qui sont roms. Mais seulement en année que nous avons commencé notre projet pour le HSH.
Les homosexuels.
Les homosexuels, mais aussi les bisexuels, aussi des autres personnes qui ont relations sexuelles avec d'autres hommes. Et c'est le seul projet dans le domaine de santé ciblé les HSH en Roumanie. Il n'y a pas des autres programmes de santé ou social ou psychologique qui s'adressent à cette groupe.
Merci beaucoup Mihai Lixandrou. Je rappelle que vous êtes coordinateur de projet au sein de l'ARAS, association membre de Coalition Plus.
Ouais, merci.
Merci beaucoup.
RFI à Bucarest, 93.5 FM.
Docteur Michel Kazatchkine, vous vouliez réagir à la situation en Roumanie, je vous ai vu...
Oui, je voulais réagir parce que je pose la question, j'ai vécu les premières années du sida dans notre pays et je voudrais être certain que les auditeurs, parce que nous parlons tellement des usagers de drogue, des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes,
qu'on ne pense pas que ce sont
en quelque sorte des responsables ou des vecteurs de l'épidémie. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que si l'épidémie est si élevée parmi ces populations, c'est parce que nos sociétés les ont discriminées, les ont criminalisées et ne leur ont pas apporté les moyens de se défendre contre l'épidémie. Et je crois aussi qu'il faut, dans la même veine quelque part, se méfier de l'opposition entre une épidémie dans ces populations à risque et puis une épidémie hétérosexuelle. La réalité, et c'était l'objet de la séance plénière du congrès d'Amsterdam, la réalité c'est que ces personnes qui appartiennent à ces groupes cachés et qui acquièrent l'infection parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger ont des partenaires sexuels qui eux-mêmes ont des partenaires sexuels qui ont eux-mêmes des partenaires sexuels et ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas de deux épidémies séparées.
Ce n'est pas l'affaire d'une communauté, c'est l'affaire de la communauté en général.
C'est une affaire de la société qui doit enfin cesser que ces populations soient, comme on dit, cachées, marginalisées, oubliées. Voilà des tas de mots qu'on utilise. Ce sont des citoyens comme les autres que nos sociétés doivent apprendre à prendre en charge.
Avec vraiment toujours cette question de la prévention. On a parlé justement des grands manques en matière de dépistage, principalement de données chiffrées. Et comment agir justement en matière de prévention pour éviter la transmission? Vous soutenez un projet en Géorgie, Marie-Martin. Vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit?
Alors, on soutient un projet en Géorgie. C'est en fait de la recherche opérationnelle. On va mettre à disposition dans la capitale 4 distributeurs de seringues avec des kits de prévention qui vont permettre en fait permettre aux usagers de drogue d'avoir accès et pouvoir accès au, en fait aussi aux activités de réduction des risques.
De façon anonyme.
De façon anonyme, effectivement. Mais tout de même, ils vont avoir, alors avant d'avoir accès au kit, ils vont remplir quelques questions du type quel est leur sexe et d'autres questions sur qui sont pertinentes.
Leur profil général
et qui vont permettre finalement de mieux connaître cette population qui est cachée, qui n'a pas accès et dont on ne connaît pas grand chose. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que la communauté, donc le voisinage où vont être installés ces distributeurs de seringues, vont être intégrés dans le comité de pilotage de ce projet.
S'inscrire dans la cité, comme on dit, professeur Kazatchkine.
Oui, je réagis là aussi parce que on a commencé cette conversation en parlant du décalage dans le temps, qu'on a l'impression que ce qui se passe en Europe de l'Est en 2018 est ce qui se passait chez nous. En 1992, j'ai installé le deuxième distributeur de seringues à Paris, rue Didot, et on a dû l'installer la nuit sous protection policière. du fait de l'opposition de l'îlot de quartier.
Mais même encore récemment, quand on installe des centres de méthadone, il y a encore de fortes résistances dans
absolument.
Les quartiers.
Et je voulais dire aussi, à propos de la Géorgie, que c'est un pays qui vraiment fait lui aussi des efforts remarquables de tolérance vis-à-vis de ces populations à haut risque. Il y a actuellement au Parlement géorgien une loi sur la dépénalisation de la possession pour usage qui devrait être votée dans cette session parlementaire.
Donc certains qui vont plus vite, qui anticipent même sur ce qui se passe en
absolument.
Europe occidentale. On a l'impression aussi, quand on parle de ces régions, d'ailleurs c'est partout pareil dans le monde, qu'il y a des personnes qui cumulent, entre guillemets, des situations de plus en plus graves, de plus en plus compliquées. On disait tout à l'heure très brièvement dans l'interview au sujet du Kazakhstan que les pouvoirs publics prêtaient main forte, donnaient des médicaments aux personnes en dehors des personnes migrantes. Il y a ces personnes migrantes qui constituent une population encore plus fragile, on va pas dire plus à risque, mais plus fragile du fait des carences de la prise en charge. Les personnes qui subissent des comorbidités, d'autres maladies, des personnes qui peuvent aussi, de par cette fragilité de santé, avoir des problèmes de santé mentale. On peut dire que pour ces populations-là, la charge, le fardeau de la maladie, professeur Kazatchkine, est extrêmement lourd.
Oui, je vous remercie de soulever la question de la migration. Pour nos auditeurs, la migration dans cette région, ce n'est pas celle que nous connaissons en Europe. La migration est une migration de travail. Des pays comme l'Arménie exportent, si j'ose dire, plus de 2/3 de leur main-d'œuvre en Russie pour des périodes plus ou moins longues. Et le Kazakhstan, mais surtout le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont des pays qui assurent la migration de millions de personnes chaque année, en particulier vers la Fédération de Russie. Et ces migrants, dont beaucoup sont illégaux ou non officiellement inscrits, vont être évidemment d'abord vulnérables parce qu'ils vont vivre loin de chez eux, vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès aux services. Et le Kazakhstan est un pays pilote de ce point de vue, qui depuis 2 ans a déclaré qu'il offre effectivement depuis 2 ans à titre gratuit le traitement de la tuberculose à tous les migrants, quel que soit leur statut, et depuis quelques mois traite aussi, apporte les médicaments du VIH à toutes les personnes séropositives parmi les migrants, légaux ou illégaux, sur des fonds du Fonds mondial. Donc, quelque part, pour moi, la prise de conscience de la fragilité vis-à-vis de la santé des migrants par le Kazakhstan est un exemple de plus de ce que dans beaucoup de ces pays d'Asie centrale et de la région, au-delà des situations que nous avons discutées dans cette émission, cette prise de conscience apporte aussi de l'espoir et des progrès.
Alors justement, on arrive à la conclusion de cette émission. Que Vandamme, votre fondation, elle travaille sur cette région depuis près de 15 ans. Est-ce que vous avez vu la situation changer ?
Il y a eu des changements majeurs au cours de ces 15 années. Les ONG et les organisations communautaires sont devenues des organisations solides qui font de très bons travails, et dans des pays comme le Kyrgyzstan et la Géorgie, il existe un dialogue entre le gouvernement et la société civile. Un certain nombre de pays ont pris la responsabilité de subvenir aux besoins de leurs propres citoyens en mettant à disposition des ressources financières et en autorisant, par exemple, à la méthadone et en coordonnant plus d'attention aux populations à risque. Je suis optimiste que dans des pays comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Géorgie, l'Arménie, la Moldavie, la Biélorussie, nous allons dans la bonne direction. Cependant, il y a encore des pays où cela reste compliqué et difficile. Comme en Russie, quand EFIU a commencé à travailler en 2001, beaucoup plus était possible que maintenant.
Soutenir le travail, soutenir l'action des ONG, mais comment justement, c'est une question qu'on pose depuis le début de cette émission, comment travailler efficacement quand il y a blocage au sommet de l'État, quand il n'y a pas assez d'argent, quand parfois même l'aide extérieure est interdite pour contrecarrer ces insuffisances. On a compris les projets portés par Expertise France, c'est plutôt à petite échelle, Marie-Martin. Vous n'avez pas l'impression de temps en temps de donner des coups d'épée dans l'eau ?
Non, pas vraiment. Alors nous, on travaille en complémentarité du Fonds mondial. Et l'objectif, c'est de promouvoir des projets innovants qui permettent de trouver des solutions. Et par exemple, aux problèmes de financement, certains pays entrent en transition de financement du Fonds mondial, comme la Géorgie ou bien l'Ukraine. Pour la Géorgie, eh bien, ce système de distributeurs de seringues, c'est une alternative économique qui va être promue. Et si ça fonctionne bien, en fait, ils vont documenter leur travail et ça va leur permettre de étendre en fait cette stratégie.
Et aller vers plus d'autonomisation.
Et plus d'autonomisation. Pareil, au niveau, on parlait des migrants arméniens, et bien depuis 2016, on appuie le NCAP, qui est le Centre National d'Études Statistiques de Santé Publique, et en fait, on les appuie pour faire des enquêtes biocomportementales sur les travailleurs migrants arméniens, documentées sur ces populations vulnérables, et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont plus vulnérables par rapport au VIH-SIDA que la population générale. À plus petite échelle, mais si on choisit bien les interventions qu'on finance, je pense qu'on peut avoir un impact certain.
Petite échelle, c'est du concret et ça peut justement s'étendre, avoir un effet de domino sur d'autres secteurs de la santé. On souligne bien que le moment est particulier, professeur Michel Kazatchkine, puisque ce sujet de la contamination en Europe orientale, il était mis en avant lors de cette conférence d'Amsterdam. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment à un moment charnière aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment lancer un message particulier?
Oui, on est à un moment charnière de l'épidémie du sida, puisque après une phase d'accélération de l'accès au traitement, après une baisse assez rapide du nombre des nouvelles infections dans le monde et une baisse de la mortalité, depuis quelques années, dans les 5 dernières années, on assiste en fait à une stabilisation du nombre des nouvelles infections dans le monde, ce qui veut dire que nos politiques de prévention sont insuffisantes, comme on l'a dit, ce qui veut dire que nos politiques de prévention sont plus difficiles à mettre en œuvre parce que les personnes qui ne sont pas dépistées, qui ne connaissent pas leur statut, sont dans des groupes vulnérables qui n'ont pas un bon accès aux services. Je n'aime pas cette expression qu'on sait, c'est-à-dire ces groupes sont difficiles à atteindre. Difficult to reach en anglais. En fait, ce sont nos services qui sont difficiles à atteindre. Ce sont pas les groupes. Et donc, on est dans cette difficulté actuellement. Et avec la crise que nous avons, que nous observons des ressources financières à l'échelle des pays et à l'échelle internationale qui stagnent et en fait ont diminué dans les 3 dernières années, il y a autour de cette conférence d'Amsterdam, sans aucun doute, une certaine inquiétude sur l'avenir de la lutte sur le sida contre le sida et quelque part la crainte d'une résurgence ou en tout cas d'une perte des gains que nous avons eus. Évidemment, cette crainte, elle est considérablement majoré dans la région Europe de l'Est dont nous avons parlé aujourd'hui, parce que là, on n'en est pas à parler de la fin du sida. On en est, la conversation, c'est d'essayer de voir comment on peut freiner la croissance très rapide de l'épidémie, la stabiliser et peut-être un jour voir la courbe épidémique s'inverser. Mais ça va prendre du temps et comme je le disais, malheureusement, pendant tout ce temps, il y aura encore beaucoup de morts qui auraient pu être évitées si les politiques publiques étaient adaptées, si les financements étaient là et si quelque part, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres endroits du monde, la solidarité mondiale pouvait se mettre en œuvre, mais plus là va, et l'émission d'aujourd'hui en est le témoin, plus je suis persuadé que la santé est avant tout une question politique.
Merci beaucoup. Hein. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat ici à Amsterdam. Merci à vous, professeur Michel Kazatchkine. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Merci à vous, Marie Martin, chargée de projet Expertise France. Et à vous, Anke Van Damme, directrice exécutive de l'AFIU International, fondation Est-Ouest de lutte contre le sida basée ici aux Pays-Bas. Priorité santé Amsterdam à l'occasion de cette 22e conférence de l'IAS. Émission réalisée en partenariat avec Expertise France. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui a préparé et fabriqué cette émission ici à Amsterdam. Ophélie Lassen, Victor Hull et Didier Bleu à Paris. À partir de la semaine prochaine, nous vous proposons de réentendre certaines des émissions que nous avons diffusées pendant l'année écoulée. Lundi, nous parlerons de la pollution intérieure, des mesures pour assainir l'air quand nous respirons dans nos maisons. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Ça va ?